Les terrasses du ciel. Les grands classiques de la poésie chinoise avec les éditions Mundaren. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la terrasse du ciel en Chine, où nous attend le vieil homme qui n'en fait qu'à sa guise, heureux homme qu'il est, Lu Yu, très grand poète. Je vais poursuivre aujourd'hui la lecture de ce livre, Lu Yu, le vieil homme qui n'en fait qu'à sa guise, publié aux éditions Mundaren. On avait quitté notre poète Lu Yu, né le 17e jour du 10e mois de 1125, alors qu'il était en chemin vers Chengdu et qu'il s'arrête sur la montagne de la muraille verte, lieu privilégié du taoïsme. Vous le savez, les poètes chinois de cette époque étaient très férus de bouddhisme et de taoïsme, et que, eh bien, le mélange, on va dire, entre le bouddhisme et le taoïsme a donné ce qu'on appelle le bouddhisme Chan en Chine, et qu'on a appelé ensuite au Japon le bouddhisme Zen. Bref, nous sommes sur la montagne de la muraille verte en compagnie de Lu Yu. Et dans ce temple taoïste réside un vénérable vieillard du nom de Chang Quan, qui vit dans un arbre, ne mange que de la nourriture crue et ne parle jamais à personne. Il consent toutefois à discuter avec Lu Yu de l'art taoïste de nourrir la vie. Et cette entrevue marquera le poète à jamais. Il arrive à Chengdu à la fin de l'année 1172, pensant de plus en plus à se retirer pour mener la vie d'un ermite paysan. Par la suite, Lu Yu est nommé à de petits postes à Shushou, Qiachao, Yangzhou, toujours au pays de Shu. Partout où sa carrière officielle le mène, Lu Yu se rend dans les temples taoïstes et bouddhistes, discute avec les moines, recopie des classiques, des manuels d'exercices de santé. On sait que les taoïstes avaient développé des théories et des pratiques extrêmement savantes pour la longévité notamment. Il pratique aussi la méditation. Par éducation et tradition, Lu Yu est un lettré confucéen, mais il faut bien dire que ses penchants naturels l'orientent plutôt vers la quête taoïste, telle qu'elle fut initiée par Lao Tzu et Chuang Tzu. Il est également familier donc de l'enseignement du bouddhisme Chan, subtile infusion de la pensée du Bouddha, comme je le disais à l'instant, dans la pensée taoïste chinoise, alors ce qui ne l'empêche pas, bien au contraire, de participer à de joyeuses agapes. Lu Yu aime manger et il aime boire. Au cours de l'été 1175, le célèbre poète Fan Chengta, que Lu Yu a connu à Hangzhou 12 ans plus tôt, est nommé gouverneur général du pays de Shu à Chengdu. Il convoque Lu Yu et en fait son conseiller. Les deux poètes sont liés par une profonde amitié, une profonde connivence qui leur fait transcender les liens protocolaires du supérieur à subordonné. Après le travail, eh bien, ils vont boire, ils devisent, composent des poèmes. Lu Yu finit par acheter une petite maison à Chengdu, dans le faubourg au sud de la ville, au bord de la rivière où l'on rince des fleurs, tout près de l'endroit où vécut le grand poète Tu Fu, né en 712 et mort en 770, Tu Fu dont la chaumière est toujours visible à l'époque. Mais l'amour de Lu Yu pour le vin est tellement débordant et son mépris des conventions si ostensible que malgré le soutien de Fan Chengta, à la fin du printemps 1176, il est relevé de ses fonctions pour beuverie immodérée et attitude décadente. Par jeu et par défi, il prend alors pour nom de lettré Fang Weng, c'est-à-dire le vieil homme qui n'en fait qu'à sa guise. Et il faut bien dire que son comportement devient de plus en plus insouciant et excentrique. Lu Yu reste 2 ans à Chengdu, sans fonction officielle, avec le titre purement honorifique de régisseur du temple taoïste de Taisho, ce qui lui permet de toucher une solde équivalente à la moitié de son salaire. Pour le reste, eh bien, il passe son temps à boire et à chanter dans les tavernes, à se promener à la recherche des fleurs très nombreuses dans la région. À la fin de l'été 1177, Fang Chengta est rappelé à Hangzhou, la capitale. Au début de l'année 1178, Lu Yu est convoqué à son tour à la capitale. Avec sa famille, il quitte Chengdu, la ville du brocart où il a passé 8 années, quelque peu attristé de quitter le pays de Shu qu'il apprécie énormément. En route, il s'arrête à Chongshou et séjourne au temple Long Sing, comme Tufu, que nous avons cité précédemment, l'avait fait en quittant Chengdu 4 siècles plus tôt. Puis, Lu Yu commence à redescendre le long fleuve vers le pays de Wu, à l'est. Il séjourne d'abord quelque temps à Chanying, content de retrouver sa maison près du lac du Miroir après une absence de 8 ans. Et Lu Yu se décrit à l'instar de Li Po comme un immortel banni sur terre dans le monde des hommes. À l'automne 1178, Lu Yu est âgé de 54 ans, il arrive à Hangzhou, la capitale, où il apprend qu'il est nommé commissaire du thé et du sel du Fujian, d'abord à Chang'an, puis à Fuzhou, au bord de la mer de Chine. Mais le climat à Fuzhou ne lui convient pas, il n'a aucun ami avec qui converser et est très occupé par sa tâche officielle. Le peu de temps libre qu'il a est consacré à s'enivrer et à composer des poèmes. Au 11e mois de 1180, les inondations ravageant la région, Lu Yu rédige une pétition pour secourir le peuple sinistré avec le riz de stockage des greniers impériaux et il demande l'aide des provinces voisines. Oui, c'est quelqu'un qui a toujours eu le souci du peuple, mais justement ce souci irrite les autorités impériales qui relèvent Lu Yu de ses fonctions. Il retourne alors à Chanyin, où il reste 6 années sans nouvelle nomination. Il passe son temps à étudier les classiques taoïstes, à jardiner, à boire et à composer des poèmes où il exprime son sentiment de l'air du temps et du cours des choses. Il apprend à cultiver avec les paysans, manifestant un vif intérêt pour les différentes méthodes de culture et techniques d'irrigation. Il bâtit son jardin, la haie de l'Est, en hommage à Tao Yuanming, un de ses poètes préférés, Tao Yuanming, qui dans un poème écrit cueillant des chrysanthèmes à la haie de l'Est, le cœur libre, j'aperçois la montagne du Sud. Lu Yu baptise son studio le repère des livres, tant ces derniers encombrent la petite pièce. Nous sommes au printemps 1186. Lu Yu est âgé de 62 ans, il est à nouveau convoqué par l'empereur Xiao Chung, rappelé à Hangzhou, la capitale, aussi appelée Lin'an, paix provisoire. Lu Yu en profite pour évoquer la reconquête du nord de la Chine et pour plaider en faveur d'une administration plus juste et impartiale. Il a le souci de parler vrai, notre ami Lu Yu. Durant ce séjour à Hangzhou, dans l'attente de sa nouvelle affectation, Lu Yu habite sur la rive nord du fameux Lac de l'Ouest. À Hangzhou, Lu Yu mène une vie joyeuse, faite de randonnées et d'agapes. Il est souvent en compagnie du poète Yang Wanli, de 2 ans son cadet, avec qui il développe une profonde amitié. Il partage la même vision politique et apprécie beaucoup leur humour mutuel. Finalement, Lu Yu est nommé magistrat à Yanshou, au sud de Hangzhou. Il y arrive au milieu de l'automne. Yanshou, situé au pied de la montagne du Dragon Noir et de la montagne du Sud, est une petite ville dans une région où les paysages sont de toute beauté, mais où la terre est peu fertile. Les paysans pauvres sont alors accablés par la sécheresse et Lu Yu est submergé de travail. Au milieu de l'automne 1187, il est très peiné par la mort de sa fille Nounou, âgée d'un an. Sa seule fille, née de sa concubine, Yang, son seul désir est désormais de se retirer à Chanyin. Il trouve néanmoins le temps de faire publier la collection choisie de ses poèmes, 2500 poèmes classés en 20 chapitres. Au début de l'automne 1188, son mandat de magistrat à Yanshou arrivant à son terme, Lu Yu demande à être mis à la retraite et au 7e mois, il retourne à Chanin. Au début de l'année 1189, à 65 ans, il est rappelé à la capitale où il est affecté au bureau des rites. Il est chargé en compagnie d'autres mandarins d'éditer les chroniques officielles du règne de l'ancien empereur Cao Chung, premier empereur de la dynastie des Song du Sud. L'hiver de la même année, Lu Yu est à nouveau censuré et limogé sur la charge que ses poèmes ne sont, je cite, que chansons de vent et de lune, c'est-à-dire désinvoltes, mais aussi que son comportement est par trop excentrique. Il retourne à Chanin, où dès lors il va mener, de 65 à 84 ans, la vie d'un poète paysan. En sa qualité de régisseur du temple taoïste Changyun à Tianming, sur la montagne Wuyi, il reçoit une rémunération équivalente à la moitié de son ancien salaire. Il cultive la terre avec ses fils, se promène dans les montagnes avoisinantes, continue d'étudier les classiques, s'enivre toujours autant et compose d'innombrables poèmes. Il rebaptise son studio l'Ermitage du Vieux Lettré. Il y passe beaucoup de temps à lire et à écrire. Il rédige et publie un recueil de notes, Notes de l'Ermitage du Vieux Lettré. Il s'agit d'une collection hétéroclite de courts essais sur des sujets très variés, mais aussi d'exercices taoïste de longévité, de recettes culinaires, il était très gourmet notre ami Lu Yu, d'anecdotes et puis de considérations sur le cours des choses à la manière taoïste. En 1190, Lu Yu édite un nouveau recueil de ses poèmes en 20 chapitres qu'il intitule « Au sud de la passe », il s'agit de la passe de l'épée au nord du pays de Shu, en souvenir de son séjour à Chengdu, aussi appelé Tao Shou. Le fils de Lu Yu confie « Pas un jour, mon père n'a oublié le pays de Chu. » Nous sommes au printemps 1197. Lu Yu, alors 72 ans, et sa femme meurt. L'année suivante, il décide de ne plus accepter de rémunération en sa qualité de régisseur du temple, arguant qu'il peut grossièrement subvenir lui-même à ses besoins. Il écrit « Se sentir libéré, je cite, comme un cerf s'échappant d'un piège et bondissant dans la forêt. » Au cours de l'été 1199, à l'âge de 74 ans, il reçoit la permission de se retirer définitivement avec le titre de « Lettré émérite ». L'année suivante, il compose l'essai intitulé « Notes sur l'aménagement de ma chambre à coucher ». Le temps passe. Lu Yu sort souvent se promener pour ramasser des plantes médicinales, mais il s'arrête aussi dans les tavernes pour boire quelques coupes de vin au village. Au cours de l'été 1202, il se rend exceptionnellement quelques mois à Hangzhou, la capitale, pour rédiger à la demande de l'empereur l'histoire de la dynastie des Tang du Sud et éditer les chroniques de feu, les empereurs Xiaochung et Quangchung, deuxième et troisième empereurs des Song du Sud. Un an plus tard, il retourne à Channing. En 1204, un de ses amis, Chao Yan Wen, fait peindre son portrait sur lequel il lui demande d'inscrire quelques mots. Et puis, ma foi, eh bien, notre ami Lu Yu, à 80 ans, il les atteint assez facilement, alors que ses compagnons ont tous disparu. Il écrit qu'il se sent comme une oie sauvage ayant perdu sa formation dans les nuages. Se félicitant néanmoins de sa bonne forme physique, il attribue sa vitalité et sa longévité à sa pratique de l'art taoïste de l'hygiène physique appelée « nourrir la vie » qui inclut des exercices de respiration, des exercices de méditation et une vie simple et paisible. Au début de l'année 1208, à cause de sa continuelle prise de position en faveur d'une tentative de reconquête du nord de la Chine, sa maigre allocation de retraite est supprimée. Complètement démuni, il ne peut plus se procurer suffisamment de nourriture et de médicaments, et la nuit, pour économiser l'huile de la lampe, il ne peut même plus lire. Au printemps 1210, à l'âge de 84 ans, se termine le séjour de Lu Yu dans ce monde flottant. Avant de mourir, il compose son dernier poème, Testament à mes fils. Bien que je sache qu'une fois mort, les 10 000 choses sont vides, je m'attriste encore de ne pas voir les 9 provinces réunifiées. Le jour où l'armée impériale reconquerra le nord de la plaine centrale, lors de l'offrande familiale, n'oubliez pas de le rapporter au vieil homme. À présent, eh bien, je vous propose de poursuivre notre lecture des poèmes de Lu Yu, comme ils ont été traduits et préparés par Hervé Collet et Cheng Wingfun, qui sont donc les patrons des éditions Mundaren. Je rappelle que tout ce que je vous ai lu depuis le début de l'été, vous pouvez le retrouver aux éditions Mundaren. C'est le cas de ce livre, Lu Yu, le vieil homme qui n'en fait qu'à sa guise. Inscrit sur une petite peinture de fleurs du prunier du moine Ying de la rivière Shan. L'aube point. Ma barque solitaire descend le gué de la rivière. En quête de fleurs de prunier, je ne me soucie guère du froid. Soudain, d'un bosquet de bambou surgit une branche. Dans l'ivresse, je soulève l'auvent pour l'admirer. Le prunier en fleurs. Immaculé, la lune sur la montagne baigne la cour. De l'ivresse, l'ermite vient de se réveiller. Non point que je craigne le froid perçant dehors, mais j'ai le souci de ne pas piétiner l'ombre du prunier en fleurs. Chose poétique, composée à l'âge de 58 ans. Dans la vieillesse, les liens envers le monde vulgaire se défont. Dans l'oisiveté, les choses poétiques abondent. J'enlève du sable pour rétablir le cours du ruisseau obstrué. Je plante des tuteurs pour protéger les nouveaux lotus. La partie d'échec terminée, allongé, je contemple les montagnes. De retour de la pêche, je rame en chantant. Combien d'années me reste-t-il à vivre? Avec le vent et la lune, je suis fort aise. Sous la lune, composé à l'âge de 58 ans. Dans le clair de lune immaculée de la cour déserte, l'ombre clairsemée des arbres. L'épi qui se repose, inquiète, vole de branche en branche. Le vieillard imite les enfants candides. J'essaie d'attraper les lucioles qui volettent. Mes vêtements sont trempés de rosée. Après avoir bu dans une échoppe au village, de retour la nuit, composé à l'âge de 58 ans. Du vin trouble du village à ras-bord, ne le repoussez pas. Oranges et piments sont beaux et parfumés, les oies blanches bien grasses. Dans l'ivresse, j'oublie que mon corps est vieux maintenant. M'amusant à poursuivre la lumière des lucioles, je rentre en pataugeant dans les flaques d'eau. Me levant de bon matin. Composé à l'âge de 59 ans. De mon rêve mélancolique, soudain je me réveille, en sursaut. À la petite fenêtre percent les premiers rayons. Un oiseau mélodieux siffle dans un arbre de la cour. Admirable, j'ignore son nom. Jadis occupant des fonctions, j'ai voyagé. Au milieu de la poussière passant la moitié de ma vie, sur un ordre, j'attachais ma ceinture et sortais. Dong dong, au moment où l'on frappait la dernière veille. Maintenant que j'habite dans la montagne, bien que libre, je me lève de bon matin avec un programme devant moi. Je rince la pierre à ancre et essuie la table, souriant, satisfait, habité par un sentiment de quiétude. Étudiant les livres. Composé à l'âge de 59 ans. À l'écart, je me suis réfugié, au bord des fleuves et des lacs, séjournant sagement au milieu du vent et de la pluie. Le papier neuf à la fenêtre est parfaitement blanc. Dans le poêle chaud, le feu vif rougeoie. Marque-page et étui de livre, je viens à l'instant d'arranger. La prononciation et la forme des caractères j'étudie en détail, si je ne meurs pas tout de suite et surmonte la décrépitude, pendant 10 années encore, je me consacrerai à l'étude. » Ivre, allongé au bord du chemin, composé à l'âge de 68 ans. Ivre mort ce matin. Je m'allonge au bord du chemin. Les villageois me protègent des buffles et des moutons. Mon sentiment exalté, la bande d'enfants ne peut le comprendre. La vérité suprême permet d'oublier complètement les 10 000 affaires. Réveiller mon cœur frêle, est encore chancelant. On me soutient pour rentrer. Mes yeux ensommeillés sont encore embrouillés. Sous l'auvent en chaume, je mâche goulûment des légumes frais hachés. Je laisse les passants frapper dans leurs mains en se moquant de ce vieux fou. Laissant aller mon pinceau. Dans l'éclaircie après la neige, les pousses rouges des renouées. La pluie a été abondante, les poireaux ont la tête bien blanche. Bien que ne possédant pas un magot de 10 000 taëls, avec un repas campagnard, je puis néanmoins retenir mes invités. Devant la nourriture, composée pour m'amuser. Après le givre, les jeunes pousses de salade sont fades mais douces. Le printemps approche, les jeunes herbes magiques n'ont pas encore formé leurs ombelles. De retour après en avoir cueilli, aussitôt je les cuisine. Pas besoin d'ajouter le moindre grain de sel ni la moindre once de graisse. Devant la nourriture composée pour m'amuser. Les tendres cœurs de palmier bien préparés parfument tout le repas. Les fleurs nouvelles d'acacia garnissent les nouilles froides. Souvent le maître repu se caresse le ventre. Tout le reste à côté est insignifiant. Après la sieste. Embrumé après la sieste, trop paresseux pour agiter un éventail, la marque de l'oreiller sur mon visage ne s'est pas encore effacée. Les lys jaunes et les œillets sont déjà fanés. Un papillon solitaire vole jusqu'ici pour accompagner ma solitude. Journée d'automne, séjournant à la campagne. Journée d'automne. Je séjourne chez un vieux paysan. Sur un plateau rouge, les fines tranches de poisson marinées sont fraîches comme des fleurs. Le riz de Leysan, de véritables perles, est déjà cuit. Du thé de Tingheng, comme de la neige blanche, est en train d'infuser. Dans le studio, jouant avec mon pinceau, improvisation montrée à mon fils Yu. Un poème composé à l'âge de 75 ans. À gauche et à droite, mon kin et ma coupe. Quiétude, nulle clameur. Le vieil homme qui n'en fait qu'à sa guise a récemment réorganisé sa vieille vie. L'encens se consume tandis que je lis un recueil d'essais de Kie Chuan. Surveillant le feu, je prépare moi-même du thé de Kuchu. À moitié ivre, ma calligraphie rivalise presque avec celle des anciens. Bien que je ne ménage pas ma peine, mes poèmes ne sont pas ceux d'un grand maître. À la fenêtre, le soleil couchant réveille ma mélancolie. dans le village de la rivière, au crépuscule, le sanglot mélodieux d'un pipeau. On vient d'aménager la chambre pour la rendre chaude. Poème composé à l'âge de 75 ans. Dans la petite chambre paisible et chaude, la fenêtre tapissée est lumineuse. Le paravent bas est installé autour du poêle. Tous les jours, je lis un passage de ma collection de sutras. J'en oublie les mois, les années. De temps à autre, je recopie un modèle de calligraphie en variant les styles, vivant à l'écart pour ce qui est de mon inspiration. Poétique tristesse et gaieté s'affrontent. Décrépit, eu égard à ma capacité en vain, je préfère le verser doucement. Maintenant que l'hiver arrive, qu'ai-je donc à faire? Dans la nuit profonde, de temps à autre, j'écoute le bruit de la neige qui tombe. Voilà, c'était quelques extraits, seulement quelques extraits, de Louyou le vieil homme qui n'en fait qu'à sa guise, publié aux éditions Mundaren. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition de La Terrasse du Ciel. Et là, nous parlerons d'un autre poète chinois classique, Qia Tao. À très bientôt.
A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy.